Radio Cité Genève présente tous les lundis à 13h05 nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois. Pour tout savoir sur ce qui fait un bon vin, pour découvrir le métier de vigneron et retrouver le terroir de notre belle région, rendez-vous tous les lundis à 13h05, rediffusion les dimanches à 17h et quand vous voulez sur radiocité.ch.
Radio Cité Genève, comme tous les lundis, retrouvons nectar.ge.ch, l'émission consacrée au vin genevois, présentée par Aristide, avec aujourd'hui son invité.
Voilà, alors Aristide a le grand plaisir de vous saluer, de vous remercier de votre fidélité. Aujourd'hui, nous accueillons un vigneron, je ne sais pas s'il est typique ou s'il est atypique, c'est M. Bertrand Favre, qui est le chef, le patron du domaine de Miolan. Je disais atypique parce que je crois que votre exploitation est très connotée nature. Je crois que vous êtes, je le vois à différents signes, particulièrement proche de la nature.
Oui, bonjour. Alors, oui, effectivement, le domaine, si vous déplacez sur le site, vous verrez tout de suite que la nature a une grosse place dans l'historique du domaine, qui comporte un grand parc sur l'arrière avec de grands arbres qui ont été plantés à l'époque par un des ancêtres des propriétaires. Et c'est aussi un coin de nature tout autour du domaine, une de ces zones encore préservées sur Genève. Donc la nature y a une grande place. Et puis ça fait maintenant un peu plus de 12 ans qu'on avait opté pour le passage à la production biologique sur l'ensemble du domaine, ce qui fait que on a encore augmenté la part nature sur tout ce territoire.
Je disais nature parce que vous confectionnez d'autres produits, il n'y a pas que du vin.
Ouais, on a une équipe d'agriculteurs qui nous sommes mis en association pour faire des paniers deux fois dans l'année, l'association Tournerève, on a l'objectif effectivement de renouer contact avec le consommateur directement et puis de renouer le dialogue pour lui expliquer aussi la réalité des choses aujourd'hui, la réalité politique mais aussi sociale de l'agriculture et puis la réalité alimentaire.
Voilà.
La qualité des produits, c'est quelque chose qu'on ne doit pas perdre de vue. C'est la première santé.
Ça, c'est clair.
Et puis, on essaie de véhiculer aussi, avec cette association, une sorte de défense, une défense professionnelle du métier d'agriculteur, mais du métier d'agriculteur au niveau agriculture familiale, traditionnelle, pas agro-industrie, type-là.
On se comprend, sans avoir besoin de le dire. Quels sont les autres produits que vous vendez donc à la cave?
Alors sur le domaine, comme il y a quand même aussi une grande part de grandes cultures, on a des produits issus de blé, d'épeautre, d'orge, de millet. Et puis j'ai un oncle aussi qui a quelques ruches, ce qui fait qu'il me laisse aussi quelques pots de miel que je peux proposer en même temps dans le caveau où je vais déguster les vins.
Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs ce que c'est que votre panier? J'ai cru comprendre, comme cela peut se trouver ici et là en France, que c'est une espèce de contrat
avec les
consommateurs, comme ça. C'est un contrat de fidélité?
Un peu. Et puis c'est vrai qu'on voit beaucoup de paniers frais, avec des légumes le plus souvent. On a vu aussi quelques paniers pour des poulets, un petit peu de viande. Là, on a fait la constatation que le parent pauvre de ces paniers, c'était un petit peu les grandes cultures standards. Enfin, je dis standard, c'est pas péjoratif, mais c'est vrai que le blé n'a pas l'identité du vin, ni l'orge. Et en somme, c'était une façon de mettre en valeur ces produits-là. Donc, sous forme de pâte, de farine, de produits qui sont des fois un tout petit peu fabriqués. L'orge, elle est râpée pour faire de l'orge perlée, qui peut s'utiliser comme du risotto. Enfin, il y a des pommes, il y a du jus de pomme, des lentilles. Mais c'est plutôt des produits secs qui servent pour l'alimentation de tous les jours, mais pour lesquels les gens d'habitude sont pas rattachés à une image. On va volontiers chercher son miel chez l'un ou son vin chez l'autre, en sachant à qui on a affaire, parce qu'il y a une forte identité. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de dire, tiens, ah, je reconnais ça, c'est la farine de tel un tel, ou c'est celle de tel autre, parce que c'est beaucoup plus anonyme. Et puis en même temps, c'est la première chose qui risque de disparaître selon les tangentes que prend la politique.
Voilà, alors je suis client, je suis séduit par votre discours parce que nous sommes pour la consommation locale. Mm-hmm. Et alors, quel est le contrat qui lie le client au producteur via le panier? Est-ce qu'il y a un contrat?
Oui, il remplit une liste au printemps. Alors, il peut prendre un panier, on va dire, standard, qui est déjà établi, ou alors élaborer son panier lui-même. Il peut faire ça sur papier ou même sur le site. Et puis, ensuite, une partie des productions sont déjà lancées, une bonne partie, mais d'année en année, on sait un petit peu où on va. Et puis, jusqu'à l'automne, la première distribution a lieu en général fin octobre, début novembre. Tous ces aliments, tous ces produits sont préparés et... C'est l'occasion de 4 rencontres pendant une semaine. Il y a différents sites où on amène ses paniers pour que l'ensemble du bassin genevois puisse être desservi sans avoir à traverser tout le canton. Et ils viennent récupérer. Alors le premier coup, ils vont récupérer les poires, les pommes. Ils vont récupérer peut-être les pâtes, les billets, en fonction de l'état de préparation de ces différents produits. Et il y a une deuxième session. Un mois plus tard, et c'est pas un panier hebdomadaire, c'est un panier qui est annuel, qui peut évoluer, parce qu'à part ça, il faut sans cesse se reposer des questions.
Donc vous reposez sur un groupe de fidèles.
Voilà, on est une quinzaine de
producteurs. Il y a un lien.
De producteurs.
Il y a un lien.
Oui, parce que ça fait quand même, ça fait maintenant un certain temps qu'on collabore là-dessus. C'est vrai qu'il y a un noyau dur, il y a quelques producteurs qui étaient les premiers d'ailleurs à passer en culture biologique qui sont dans cette association. Et c'est vrai que c'est comme on parlait tout à l'heure d'un conservatoire pour les cépages, ça c'est un petit peu un conservatoire de l'agriculture comme elle devait être peut-être avant la dernière guerre ou même un peu avant, mais avec des contacts plus directs, des structures plus petites, mais aussi beaucoup plus humaines. Et puis, ma foi, quand il y a un problème, on en parle, même aux consommateurs. Tout d'un coup, il y a un produit dont on n'a pas assez, on leur explique qu'on a eu un problème, soit avec le climat, soit avec la culture. On le compense par autre chose. Et puis, c'est vrai que ça paraît simple comme ça. Ça l'est pas du tout en réalité, parce que quand les gens font leur commission dans le supermarché, ils n'ont pas du tout toutes ces notions.
Oui. Voilà, c'est exactement notre philosophie.
Ne bougez pas, Nectar, la suite dans un instant, après une pause musicale.
Radio Cité Genève.
C'est mon sang.
Radio Cité Genève présente nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois.
Vous écoutez Radio Cité Genève, c'est l'émission Nectar qui parle des vins genevois avec Aristide et son invité Bertrand Favre.
Donc le thème pour aujourd'hui, c'est le Chasselas. Le Chasselas qui est représentatif de notre canton. Je dis le Chasselas, mais en réalité, il faudrait dire les Chasselas.
Oui, on pourrait dire les Chasselas. Moins aujourd'hui peut-être qu'à l'époque, mais le Chasselas, c'est vraiment la spécialité de la Romandie. C'est d'abord un cépage qui est connu mondialement. C'est lui qui fait la référence pour la précocité de maturation des cépages, mais c'est un cépage qu'on mange. Il n'y a que dans notre région qu'on le consomme sous forme de vin.
Voilà, donc c'est un raisin de table tout autant, par exemple, le Chasselas de Moissac.
Voilà.
Mais je pense que la tradition ancienne, c'était peut-être pour moitié un raisin de table.
Alors anciennement, je sais pas, ça je saurais pas vous dire. Ce qui doit être sûr, c'est que entre le Chasselas de Moissac qui a vraiment cette fin de bouche à être consommé en raisin rond, et puis le Chasselas qu'on peut trouver ici dans nos régions, il y a certainement des tas de différences, de petites différences peut-être, mais génétiques, qui font que le nôtre se prêtait peut-être plus à être consommé sous forme de vin que. Mais c'est toujours un cépage qui est doré quand il est bien mûr, qui est agréable à l'œil, qui est tendre en bouche, enfin qui est agréable, qui est ni trop acide, ni trop sucré non plus.
Donc c'est un cépage polyvalent.
Assez.
Avec le Chasselas, je me suis plongé un petit peu dans les textes, dans les documents, et puis j'ai appris que, bon, d'abord, on ne sait pas exactement d'où il vient. Hein. J'ai lu qu'il existait primitivement en Égypte.
Ah.
Sous le nom de Fayoumi. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais les Turcs le revendiquent aussi, et les Français, parce qu'il aurait été importé de Turquie en France, et puis les archives royales en gardent la trace. Et puis, Chasselas, en somme, c'est un nom de village qui se trouve dans le Mâconnais.
Ouais.
Et le village de Chasselas a pour particularité de ne cultiver que du chardonnay. Et puis alors, on regarde plus près, on sort la loupe, et puis on s'aperçoit que le vrai royaume du Chasselas, c'est par ici, c'est l'arc clémanique, en gros.
Oui.
Voilà, ça c'est pour la localisation. Maintenant, au plan botanique, j'ai lu aussi que le botaniste genevois célèbre Augustin Pyram de Candolle, qui a donné son nom à une rue, avait recensé les Chasselas et que au total il en avait trouvé en tout cas une cinquantaine. J'ai lu aussi que il y a un agroscope fédéral, je pense si c'est à Berne, ça doit être quelque chose comme ça, qui possède 300 variétés. Et alors donc là-dedans, il peut y avoir une certaine confusion. La question c'est la suivante: qu'en est-il de votre vigne? Est-ce que vous avez une collection de Chasselas?
Non, pas vraiment. En somme, aujourd'hui, pour avoir une collection, il y en a dans les cantons qui servent finalement de référence pour pas perdre la génétique finalement de ces différents Chasselas.
Donc l'historique. C'est des conservatoires.
Ce qu'on utilise peut-être pas aujourd'hui parce qu'un Chasselas nous déplaît pour telle ou telle raison sera peut-être utile demain parce que le climat a un peu plus changé encore ou d'autres raisons de résistance. Mais c'est vrai que sur l'ensemble du vignoble maintenant, qui a quand même considérablement évolué, il était reconstitué pour s'adapter et aux techniques culturales et aussi dans la recherche agronomique, il y a quand même eu, même si aujourd'hui on pourrait se dire tiens, on est peut-être plus pauvre au niveau de la diversité, il y avait un objectif qualitatif pour trouver un Chasselas qui ne fait pas de coulure chaque année, va proposer un vin qui bon an mal an quelque part est agréable au nez, est équilibré en bouche, pas quelque chose qui mûrit une fois sur deux. Alors il y a peut-être pas de telle diversité dans le même cépage Chasselas, mais dans les sélections massales de l'époque, peut-être dire siècle, je veux dire, sur 10 000 plants de vignes, il y avait peut-être, il y avait peut-être 4 ou 5 000 plants différents, parce qu'ils avaient tous une petite différence, des fois pas significative, puis des fois importante.
Vous avez employé le mot massal.
Ouais,
j'avoue mon ignorance.
Ouais, c'est au niveau de la pépinière, donc de la reproduction de la vigne, on emploie ce terme quand on a affaire à une source qui n'est pas un clone. Aujourd'hui, quand les stations de recherche Agroscope sortent un nouveau clone de Chasselas, typiquement un clone 2002, parce que finalement, il remplit toutes les conditions, puis toutes les caractéristiques qu'on attend d'un chasselas, eh bien, ma foi, du premier plan de la ligne jusqu'au dernier, on a affaire à ce même individu.
D'accord.
Donc le pied que vous avez devant vous, puis celui qui est 100 mètres plus haut, c'est le même pied. Et c'est au niveau de la qualité, ben évidemment, c'est plus stable et plus constant. Maintenant, c'est vrai que ayant un peu changé de mode cultural, voyant le climat changer, c'est vrai qu'il suffirait de se dire, mais j'invente totalement, mais que tout d'un coup, ce clone en particulier a une petite sensibilité à la sécheresse, à la chaleur par rapport à d'autres. Et puis, on pourrait être bien embêté si le temps continue de se réchauffer comme c'est le cas. Alors que à l'époque où ils avaient un nombre d'individus incroyables qui étaient tous différents, ben certains étaient plus sensibles au mildiou, d'autres à l'odium, d'autres c'était peut-être la pourriture. Puis certains supportaient peut-être très bien le sec, puis d'autres peut-être très mal. Mais dans l'ensemble, finalement, on n'avait jamais quelque chose de parfait, mais on avait toujours une moyenne qui tenait la route. Finalement, c'est un peu la force de la nature, c'est que elle est pas du tout parfaite, la nature. C'est son imperfection qui fait que tout va bien.
Donc,
elle peut s'adapter. Tandis qu'à sélectionner, disons, à l'extrême, on se fragilise aussi dans la mesure où si tout d'un coup on a fait rentrer le renard dans le poulailler, ben, après on est coincé.
Ouais. Supposons que je sois l'heureux propriétaire d'un terrain bien pentu sur lequel je veux planter une vigne et comme j'aime le chasselas, mm-hmm. je veux mettre du chasselas. Je vais chez le pépiniériste, je lui demande un petit choix.
Ouais, ben ça serait l'idée, ça serait de lui demander qu'est-ce qu'il a à proposer. Et ma foi, s'il a que des sélections clonales de chasselas, la sagesse serait d'en utiliser un maximum pour se dire que on n'a pas qu'un seul chasselas. Puis au niveau de la bouteille, ça se retrouve aussi. C'est que plus on a de diversité au niveau de la plante, plus on a de chances d'avoir quelque chose de complexe au niveau du vin. C'est aussi intéressant à ce niveau-là. Et puis, après ça, eh bien, pour les facultés de l'un par rapport à l'autre, si tout d'un coup, ben voilà, c'est vrai qu'on peut pas le nier, il y a quand même la climatologie maintenant atteint des fois des extrêmes, eh ben d'avoir plusieurs sortes de chasselas, c'est peut-être une sécurité pour se dire que vous aurez toujours au moins l'un ou l'autre qui pourra sortir son épingle du jeu.
Voilà.
Et puis il a peut-être, alors ça parce que ça arrive encore, une sélection massale à vous proposer, c'est-à-dire une ancienne vigne dans laquelle il va encore chercher des greffons, dont là l'origine génétique est plus difficile à connaître, mais qui vous amènera une plus grande diversité encore, puis un peu plus de sécurité.
Voilà, donc finalement, on le dit jamais, mais quand on boit une bouteille de chasselas, c'est d'une certaine façon un assemblage.
Dans un sens, oui.
Dans un sens, oui.
Ne bougez pas, la suite de Nectar dans un instant.
Radio Cité Genève.
Back.
Cité Genève présente nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois.
Radio Cité Genève, c'est l'heure de la troisième partie de nectar.ge.ch. Retrouvons tout de suite Aristide et son invité.
Nous avons donc le plaisir de nous entretenir avec Bertrand Favre du domaine de Miolan. Il me semble que vous avez une particulièrement belle exposition pour vos coteaux. Si mon souvenir est bon et si j'ai le sens de l'orientation, vous êtes plein sud.
Ouais, on a, c'est vrai que le coteau commence au sud, sud-est et finit au sud-ouest, ce qui fait que au printemps, c'est pas le plus précoce. La partie arrière du coteau qui regarde Jussy et Meigné est plus rapide, mais c'est vrai que à partir du mois de juin, on a vraiment un ensoleillement fort du matin jusqu'au soir. Ce qui était, enfin, pendant longtemps, c'était un atout. C'est vrai que ces deux dernières années, on s'est demandé si ça allait le rester, parce que on doit reconnaître qu'entre 2017 et 2018, le soleil n'a pas manqué et on va peut-être un jour ou l'autre se demander comment conserver un peu de fraîcheur dans nos vins, dans la mesure où on a atteint de fortes maturités ces deux dernières années. Mais c'est vrai que c'est un très joli coteau, de bonne pente, mais accessible
pas
tout
trop.
De même.
La machine passe.
On a le tracteur pour faire les applications phytosanitaires, qui sont des applications qui sont toujours à base de tisane, comme on est en culture biologique, mais on s'inspire plutôt de la biodynamie dans nos travaux, ce qui fait que on doit passer pour la protection des plantes, mais l'idée est plutôt de passer avec des microdoses et plus souvent, et puis toujours avec une base de tisane ou de décoction, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses à la main, les effeuilles, on est tout revenu à faire à la main, les vendanges bien sûr, mais un coteau d'un seul tenant avec une jolie pente, mais sans qu'elle soit excessive, on a moins de risques d'accident et c'est quand même bien ventilé. C'est plaisant. Je dirais que le seul inconvénient, c'est que ma foi, si un jour on devait se trouver dans un passage de grêle, on a le 100% du vignoble qui prend la grêle en même temps que ceux qui ont un vignoble dispatché. Ma foi, peuvent toujours espérer qu'une parcelle va peut-être prendre une chaire, alors que celle d'à côté va être plus épargnée. Quoi.
Quand vous parlez de tisane, ça m'inspire peu, parce que, disons que je pense à des personnes âgées, souffreteuses, qui essayent de conserver leur santé au mieux.
Mais c'est la même
chose.
Et
alors, là, vos tisanes, quels sont les composants de vos tisanes ?
Mais alors, c'est tout sur place. C'est exactement la même tisane que vous pouvez préparer le matin. Vous changez le petit sachet en coton par une tête d'oreiller. Puis, alors c'est pas des verveines. Enfin, on pourrait noter, mais on fait diverses tisanes. La principale, la plus utilisée, c'est celle d'ortie.
D'accord.
L'ortie, c'est une plante formidable qui à tout point de vue est vitalisante. Elle renforce la plante. On peut même la laisser un tout petit peu infuser un peu plus longtemps si on veut avoir un petit effet, on va dire légèrement insectifuge, c'est-à-dire que ça va pas nuire aux insectes, mais ça va les gêner un peu. Donc, ils pourraient le temps de quelques jours laisser la plante un peu tranquille. Mais c'est du travail en douceur. Mais il y a plein d'autres tisanes. L'été dernier, il faisait de fortes chaleurs avec la sécheresse. On a fait de la camomille exactement pour les mêmes raisons qu'on fait de la camomille pour nous quand on a besoin de s'apaiser.
Et ça marche.
Alors, c'est jamais fulgurant. Et puis, dans les principes qu'on utilise, c'est vrai que on peut pas comparer d'une ligne à l'autre. Si on le fait, on le fait pas, la différence. C'est un tout. Puis c'est l'ensemble de toutes les mesures. C'est à chaque fois des petits coups de pouce qui font que ça va passer ou pas. La base, toujours, reste de bonnes pratiques agricoles ou viticoles, en respectant les sols, la plante et tout. Ça reste la base, comme pour tous les vignerons et agriculteurs.
Voilà, donc vous n'empoisonnez pas votre domaine, vous êtes...
Là, c'était l'idée, en sortant de ce système-là. Maintenant, en toute honnêteté, même si on pratique de la biodynamie, on utilise quand même un peu de soufre pour l'oïdium, parce qu'il n'existe rien d'autre. Même si on a des tisanes ou qu'on peut utiliser du petit lait pour avoir d'autres produits puis diminuer les doses, et le cuivre reste malgré tout un métal lourd. Donc l'objectif, c'est de l'utiliser le moins possible.
D'accord.
C'est ça. Il faut tendre au moins. Bon, des fois on fait des expériences où tout d'un coup on transpire sévère parce que on va aller tellement bas en se disant ça doit passer, puis tout d'un coup on se rend compte que ça passe pas. Mais là l'idée c'est vraiment la microdose pour dire qu'on en met le moins possible, que si une pluie survient, ben c'est tout ça de moins qui se retrouve dans le sol. Et puis on repassera derrière pour reprotéger. Alors le X, c'est le passage répété, parce qu'effectivement, au lieu de passer peut-être 10 fois eh ben on va peut-être passer 15 ou 16 fois. Mais ouais, à un moment donné, c'est toute affaire de compromis. Puis qu'est-ce qui est le plus nocif d'un produit de synthèse qui doit se décomposer dans un sol, prendre le temps de le faire, avec l'impact qu'il aura, ou le passage d'un tracteur où il faut peut-être compter 4 litres de diesel à l'hectare pour faire passer la préparation. Il faut toujours peser le pour et le contre.
C'est ça. Et donc rien n'est parfait.
Non.
Je déduis de ce que vous nous avez exposé qu'il faut réhabiliter l'ortie qui a relativement mauvaise presse.
Ne bougez pas, la suite de Nectar dans un instant.
Radio Cité Genève, 92.2 FM.
Mille avant nous ont voulu laisser leurs traces, ils s'en sont vus déçus. De belles âmes que le temps efface, Dieu j'en ai connu.
On veut avancer seul, mais on ne va jamais loin. Suffirait qu'on le veuille pour aimer nos voisins.
C'est pas la mer à boire, pas l'océan non plus. Pour dessiner l'histoire, il faut nous maintenir.
Chanter dans les campagnes et danser dans les rues. Demain, demain on gagne, demain nous maintenir. On trace.
Cité Genève présente nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois.
De retour sur Radio Cité Genève pour nectar.ge.ch, quatrième partie avec Aristide et son invité.
Invité toujours Bertrand Favre, domaine de Miolan. Donc, domaine de Miolan, c'est à Choulet. J'espère que vous connaissez suffisamment la campagne genevoise pour vous y rendre sans encombre. Donc, depuis Genève, c'est Vendeuvre. Depuis Vendeuvre, on prend direction route de Jussy. À un moment donné, il y a un écriteau, Choulet, et vous êtes près du but. Voilà. Donc, on a parlé de l'ortie que nous avons réhabilitée ensemble, mais il y a aussi d'autres plantes que vous récoltez. En somme, vous vous transformez en botaniste, vous allez herboriser à droite, à gauche. Non. Quelles sont les autres plantes qui vous intéressent?
Un vrai botaniste, il saurait exactement ce qu'il fait, puis il en connaît un rayon. Là, on a que quelques plantes, mais c'est des plantes essentielles. Ben la deuxième plante qui rentre dans nos préparations, c'est la
reine des prés.
La reine des prés, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ben le but étant que la reine des prés est très riche en acide salicylique, plus que le saule, que l'osier, et on en trouve. On a la chance d'avoir quelques petits ruisseaux sur le domaine. Il en pousse dans le bord de ces ruisseaux, ce qui fait que on attend qu'elle monte à fleur. C'est en général la période où la plante est la plus riche en composés, puis en éléments intéressants pour nous. On peut l'utiliser en fraîche, mais le plus souvent, on en cueille ce qu'il nous faut pour en avoir un petit stock et pouvoir l'utiliser. Et typiquement, quand on a une attaque de mildiou qui est déclarée, là, pour aider la plante à se défendre un peu par elle-même, à la stimuler, comme on prendrait une aspirine quand on
a une grippe,
eh ben on fait une tisane de reine des prés.
Ben c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infusions quand même à la reine des prés. Mm-hmm. Et puis on parlait aussi du saule qui est, je comprends bien, multi-usage, parce que le saule, on peut, avec les petites branches, faire les paniers dont nous avons parlé tout à l'heure. Et puis en plus des paniers, alors il contient une substance précieuse.
La même que la reine des prés,
à savoir
l'acide salicylique, mais en même temps dans une moindre quantité. Alors c'est un petit peu plus difficile à préparer parce que c'est quand même un peu, c'est ligneux, on les coupe, on les explose un petit peu, et puis après on les infuse exactement de la même manière, mais c'est un petit peu moins riche. Mais c'est le même objectif.
Voilà, donc l'acide salicylique, encore plus grande polyvalence que ce que nous avions pensé, ça combat aussi la migraine. Donc c'est une plante absolument merveilleuse. Mm-hmm. Vive les ressources, la nature. J'aurais voulu parler d'autre chose, le chasselas. Chasselas, il est tellement répandu, tellement traditionnel à Genève depuis longtemps, qu'il a connu une méchante éclipse. En somme, il est passé de mode. Oui. Paraîtrait-il qu'à un moment donné, la Confédération a même donné des primes à l'arrachage du chasselas pour que l'on complante le vignoble, les vignobles, avec ce qu'on appelle des spécialités. Que pensez-vous de cette espèce de disgrâce du chasselas?
Ben, ma foi, il la doit à des pratiques qui avaient lieu alors. Il la doit aussi à ses facultés. C'est-à-dire que le chasselas, autant certaines années médiocres, peut avoir de la coulure. C'était le cas, et nous, on se souvient pas assez, on était trop jeunes, mais les années 70 et 80, ça n'a pas toujours été facile. 80, ça a commencé à aller, puis régulièrement. Mais jusqu'à la fin des années 70, ils ont eu des mauvaises années, parce que le chasselas donnait plus rien, mais c'est en même temps un cépage, quand l'année s'y prête, qui peut donner énormément. C'est ce qui s'est passé en 82. Puis à un moment donné, voilà, sa disgrâce est venue du fait que quand il donne énormément, maintenant c'est une obligation, puis on le fait, puis on le sait, aussi pour la qualité des vins, et surtout pour la qualité des vins, c'est qu'il faut l'empêcher de donner tout ce qu'il veut bien donner, pour garder la qualité. Ma foi, ça se faisait pas à l'époque, et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu des engorgements de marché, parce que il a beaucoup trop produit, puis évidemment, vous imaginez bien qu'un plant de vigne qui va donner 4 kilos plutôt qu'un seul, va pas donner 3 litres de la même qualité qu'une petite bouteille.
Hélas, on en a connu de ces vignerons qui faisaient 4 kilomètres. Bon, autrefois, je crois que c'est en régression maintenant, mais on a entendu 1000 fois cette plaisanterie idiote qui consiste à dire que le chasselas, ça raye les vitres. Je suis sûr que vous l'avez entendu, vous y avez pas échappé. Est-ce que c'est toujours le cas?
C'est plus du tout le cas. Et puis en plus, aujourd'hui, on entend des gens qui n'ont pas connu cette époque qui le disent. Disons que je trouve... C'est une réalité, mais c'est une réalité que j'ai même pas pu goûter. Et puis j'ai quand même 43 ans. Et en même temps, c'est une réalité qui est passée. Il faudrait passer à autre chose. Parce qu'en somme, ça doit bien faire 30 ans que les vins ont progressé, et pas seulement 15. Et somme toute, faut laisser ça derrière. Oui. Maintenant. Et puis, moi, la seule chose que j'entends du chasselas, c'est que c'est le seul cépage qui ne parvient pas à passer la soif. Ce qui explique peut-être la raison pour laquelle beaucoup de gens l'apprécient, mais il redore très vite son blason maintenant. C'est une bonne chose, parce que c'est vrai qu'il avait une place majoritaire dans le vignoble. Il l'a conservé, ça reste quand même le premier cépage blanc. Mais à une époque, Genève, c'était en gros chasselas gamay, un petit peu de pinot noir. Ces deux cépages, qui sont quand même emblématiques de notre terroir, restent les deux cépages principaux, mais ils ont dû concéder de grandes surfaces à des spécialités. C'est marrant d'appeler spécialité un Sauvignon blanc, un Gamaret ou un Garat noir, parce qu'en réalité, les deux véritables spécialités du terroir genevois, c'est plutôt le Chasselas puis Gamay. C'est vrai,
voilà, c'est
vraiment
ça.
C'est notre identité, comme le Grenache l'est à Châteauneuf-du-Pape. Mais somme toute, c'est vrai que voilà, ces années où les productions étaient importantes, la qualité était moindre, les gens ont un peu tourné le dos au Chasselas. Puis c'est vrai que c'est un vin qui est très très sensible, très subtil, et somme toute, il supporte pas la médiocrité. Vous arrivez à une période où peut-être le Chasselas a été fait de manière un petit peu moins précise, avec un Sauvignon blanc ou un Pinot gris, et tout de suite les gens trouvent quelque chose qui a plus de corps, qui a un parfum. Forcément, c'est flatteur et ça a dû plaire, et ça plaît aux gens.
Oui. Disons, je poserai la question comme ça. Maintenant, les spécialités, on dit, voilà, elles sont plus typées du point de vue aromatique. On a du vionnier, parce qu'on y trouve des senteurs d'abricots séchés, puis on prend du chardonnay, puis on a du pinot blanc, puis du pinot gris, puis du sauvignon, qui sent la feuille de cassis, etc., etc. Mais est-ce que le Chasselas n'a pas de goût?
Si, il est présenté comme un vin neutre, ce qui est faux. Je dirais, c'est un vin qui est très subtil. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas un Chasselas, il y a des Chasselas. Puis si vous allez au lac de Bienne, le Chasselas, il est minéral là-bas. Et là, il a un profil que vous pouvez pas manquer. Et puis vous allez en Valais, il est un tout petit peu différent. Enfin, d'une région à l'autre, en fonction, et notamment du terroir, vous aurez des Chasselas différents. Et c'est vraiment, c'est même le cépage avec lequel on peut le mieux. C'est un ambassadeur du terroir, un vrai.
Voilà.
Parce qu'il vous dira ce que vous avez dessous, si vous avez les bonnes pratiques. C'est lui qui vous dira le mieux ce que vous avez en dessous de la surface.
Ne bougez pas, Nectar, la suite dans un instant, après une pause musicale.
Radio Cité Genève.
Thank you.
Radio Cité Genève présente nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois.
Vous écoutez Radio Cité Genève, c'est l'émission Nectar qui parle des vins genevois avec Aristide et son invité.
Son invité qui est Bertrand Favre du domaine de Mieulan. Concernant le Chasselas, j'aurais souhaité que vous me détrompiez peut-être. On dit que le climat évolue, les raisins mûrissent plus facilement et tout et tout. Et je trouve que certains Chasselas deviennent maintenant un peu mous et trop capiteux. Comment les aimez-vous ? Par exemple, un peu pétillant ? Alors, qu'est-ce que vous cherchez à produire exactement ?
Alors, je suis bien genevois sur ce côté-là, vous l'avez dit. Moi, j'apprécie le petit côté carbonique du Chasselas. On fait tout ce qu'on peut pendant la vinification pour le conserver. C'est pas le cas de tout le monde, c'est vrai. Les gens dans le laveau aiment les Chasselas un peu plus ronds, un peu plus capiteux. C'est vrai qu'on aime bien avoir ici, enfin, moi personnellement, un côté un peu friand dans ces Chasselas, mais... Ce que je recherche le plus, c'est, et on n'y arrive pas forcément facilement, c'est à faire sortir le petit côté floral, tilleul, que le Chasselas peut avoir. Mais contrairement à un muscat ou un sauvignon blanc où la plage aromatique est énorme et où finalement il peut être discret ou intense, on va le reconnaître parce que on a une plage de travail qui est importante. Le Chasselas, il est fermé et puis vous l'ouvrez un tout petit peu, puis il est tout de suite, en train de passer.
Ouais,
et pour tenir ce fruit dans la bouteille, qui soit persistant et qui, c'est extrêmement difficile d'avoir l'équilibre à la cuve, d'avoir le rythme et tout ce qu'il faut pour qu'il puisse s'exprimer, qu'il sorte un peu le fruit. Et somme toute, il a plutôt tendance, et surtout encore après les mises en bouteille, à se refermer un petit peu. Donc, il est plus sur le côté un peu minéral. Et à ce moment-là, c'est peut-être d'avoir une année de bouteille. Qui lui permet de s'ouvrir suffisamment pour commencer à donner ce petit côté floral qui est très sympathique. Et en même temps, c'est vrai que c'est un vin qui, malgré une complexité qui est tout en finesse, c'est un vin qui reste léger.
Voilà. Moi, des fois, je le dis sans détour, ça m'est arrivé de tomber sur des Chasselas UP, donc de domaines tout à fait prestigieux, auxquels je trouve un goût d'ananas, de fruits tropicaux et mou. Et moi, je pense que le Chasselas genevois doit quand même avoir une certaine vivacité, c'est ce qui me semble.
Oui.
Je voulais vous demander, question très ouverte, est-ce que le Chasselas est un vin de garde ? Parce que si vous allez dans des supermarchés, vous avez une contre-étiquette, et puis il y a marqué Chasselas à boire entre 1 et 3 ans. Et puis, de temps en temps, c'est des amis vignerons qui me sortent un Chasselas de derrière les fagots, un Chasselas qui peut avoir 20 ans, et puis il y a avec un bout de vieux gruyère, 24 mois, etc. C'est le paradis sur terre. Donc, est-ce que pour vous, le Chasselas est un vin de garde ?
Non, disons que dans la majorité des cas, c'est vrai qu'on le consomme de 1 à 3 ans. C'est vrai que c'est le vin de l'apéritif, c'est le vin qui sort le plus facilement, mais c'est toujours très, très sympa d'en mettre quelques bouteilles de côté, puis de tester à 5 ans, à 7 ans, à 10 ans, autant que ça allait avec des rouges finalement, parce que effectivement ça se tient. Alors il change de profil, après c'est un autre vin.
Il culbute pas quand même.
Il se patine.
Et il madérise.
Alors ça peut arriver, mais ça dépend aussi, et là l'importance du bouchage est
déterminante.
Ouais, déterminante. Puis on se rend compte que, on aimerait bien que le bon bouchon qu'on a choisi soit des fois le meilleur bouchage, mais pour le Chasselas, je dois reconnaître que c'est un des seuls vins où on utilise aussi de la vis. On le bouche à Liège, mais aussi à vis, parce que si la première année c'est pas forcément avec la vis qu'il est le mieux, parce que ça a tendance à le fermer, à l'empêcher de souffler, dans le temps, la vis, c'est quelque chose qui va très bien avec le Chasselas. Je veux dire, c'est un bouchage qui lui convient relativement bien. Et si on veut faire des tests sur 10 ans ou plus, j'opterais pour ce bouchage-là.
Ouais, moi, j'ai jamais eu. Franchement, je suis content que vous en parliez parce qu'il y a des tenants d'une tradition comme qui sont agrippés au bouchon. Mais des fois, on a des problèmes avec le bouchon, faut reconnaître. Mais problème avec la vis, jamais.
Non, c'est très rare. Tout d'un coup qu'un joint n'aille pas, ça peut se produire, mais c'est très rare. Mais c'est vrai qu'à part ça, le bouchon reste quand même, c'est avec le bouchon qu'on peut faire, qu'on peut trouver, qu'on peut avoir les plus belles merveilles. Puis c'est aussi avec le bouchon que des fois on a les plus grosses catastrophes, parce que tout d'un coup on a gardé 2 bouteilles 10 ans, une est splendide, puis l'autre est peut-être simplement bouchonnée ou madérisée, parce que chaque bouchon est différent, c'est naturel. Et puis voilà, alors que la vis, bah, c'est vrai que c'est standard, vous avez 10 ouais. bouteilles.
Ouais, pas de surprise.
Il voilà, n'y a pas de surprise. Mais c'est vrai que vous mettez un muscat à vis, ben ça va pas tellement.
Oui, ouais, j'ai jamais ça vu va... de vieux-nier avec des vis.
Non, les spécialités en général, c'est plutôt Liège.
Je vous pose une autre question. Vous faites du chasselas non filtré.
Oui.
Dans quelle intention ?
Alors,
qu'est-ce que ça apporte de ne pas le filtrer ?
Ben, c'était
donc un
d'abord.
Vin trouble, est-ce que le vin est trouble?
Il l'est un petit peu, selon les années, il l'est plus ou moins, mais c'était pas l'objectif d'avoir un vin trouble. Ça, c'était d'abord une expérience pour moi-même, de tester la clientèle, de savoir si elle était d'accord de consommer un vin qui pouvait avoir l'air pas fini. Donc, c'est vrai que quand on sert un rouge qui n'aurait pas été filtré, ça se voit pas forcément. Ou ça se voit dans le fond de la bouteille. Mais sur le blanc, c'est vrai qu'il n'y a pas photo. On a des belles bouteilles avec des vins qui sont clairs, limpides. Si tout d'un coup, on a quelque chose d'un peu trouble, les gens se demandent tout de suite ce que c'est.
Oui.
Mais c'est partant du constat que, ma foi, quand on prépare les vins pour les mises en bouteille, c'est vrai qu'on a des schémas qui sont peut-être, des protocoles qui sont peut-être des fois un peu trop rigides, mais on éclaircit les vins, on les pré-filtre, plutôt dans la phase hivernale, quand ils sont au froid. C'est des choses qui sont faites maintenant. Et puis après, au moment de la mise en bouteille, eh bien, pour les préparer à la mise sous verre, on les filtre finement pour qu'ils soient, ben, comme vous les connaissez, dans les bouteilles. Et puis même plus sévèrement, si tout d'un coup, une année ou l'autre, il devait rester un petit résiduel parce que les fermentations sont pas faites complètement, il convient de les filtrer de manière assez sévère pour qu'ils ne repartent pas en fermentation dans les bouteilles. Mais c'est vrai que chaque fois qu'on fait ces opérations, enfin, moi j'ai toujours constaté que, ma foi, entre avant le filtre puis après, il y avait une énorme différence de matière et...
Mais de goût, et la différence de goût
aussi, puis ça me chagrine souvent. C'est en plus des opérations que j'aime pas faire, sincèrement. Moi, je suis pas à l'aise avec ça. Alors, bon, ma foi, certains le sont, puis tant mieux pour eux. Moi, c'est un calvaire à faire ces opérations. Et puis, je me suis dit, une fois, il faudra quand même que j'éclaircisse les choses, puis je m'éclaircisse les idées. Je vais mettre quelques bouteilles brutes, intégrales, voilà. Comme on a une farine de blé qui est intégrale. Et puis, ma foi, je mettrai mon vin farine fleur ou farine blanche en bouteille normalement après. Mais je veux voir en intégrale ce que ça donne. Et puis, j'étais très content du résultat. Alors, étonnamment, à l'analyse, vous avez 2 vins qui sont les mêmes, on dirait des jumeaux, c'est comme un clone, mais en réalité, en bouche, c'est totalement différent.
Quelle est la différence?
Eh ben,
il y a plus de fruits pour
fondamentalement, la constatation est simple, le non-filtré présente un profil aromatique plus important que le classique, que le filtré, et une plus grande tendresse en bouche. Alors que l'acidité, elle a la même, c'est seulement le bagage du vin et sa structure qui font qu'il a l'air plus tendre et un peu plus fruité. Alors, d'un côté, l'idée, c'était de tester aussi la clientèle. Somme toute, je me suis retrouvé devant le mur à avoir finalement créé 2 chasselas qui avaient chacun leur clientèle. Alors du coup, on a... En somme, mais c'est des grandes lignes, faut pas faire des généralités. Il y a des tas d'hommes qui apprécient ce chasselas non filtré, mais les dames qui ne sont pas spécialement dans leur grande majorité portées sur le chasselas parce que c'est un vin qui est sec, plutôt terroir, qui préféreraient une spécialité, aiment bien ce chasselas non filtré parce que justement il y a cette tendresse en plus, puis ce petit côté floral, un peu tilleul, et puis, c'est vrai que. Voilà, pour une fondue ou pour une raclette, le chasselas classique, qui est un peu plus minéral, convient toujours très bien.
Ouais.
Mm-hmm. Maintenant, si on les laisse vieillir, puisque vous en avez parlé, ils tendraient à se rejoindre, si vous voulez. Celui qui a été filtré, au bout de 3 ans, commence à avoir le profil aromatique du non-filtré qu'il a tout de suite. Et puis... Le non filtré se retape plus vite. Les mises en bouteille, ça casse les vins quand même.
Oui.
Et on dit qu'il faut 3 semaines, 1 mois, c'est le petit minimum pour retrouver quelque chose de bien. Faut plutôt 3 mois. Et avec le non filtré, il y a quand même une cassure. Le fait de séparer le vin qui se trouve dans une cuve de 2 ou 3 000 litres en contenant de 75 centilitres, c'est un traumatisme. Mais il s'en remet. En 15 jours, 3 semaines, on retrouve plus ou moins le produit qu'on avait en carte. Ça va beaucoup plus vite.
Oui, ouais. Il récupère. Je voulais vous demander, encore une fois, pour mon instruction, est-ce que c'est la même chose que tirer sur lit non filtré?
Ben, ça serait un peu ça, oui.
C'est un peu bon, ça.
À l'époque où, enfin, moi j'avais fait ces petits essais de vin sur lit avec un cousin, c'était très rigolo, mais allez, alors je sais, bon, il aurait fallu discuter de ça avec nos grands-parents, mais à l'époque, ce qu'on faisait, c'est que on avait tendance à le mettre en bouteille après la FA, sans qu'il se soit éclairci, en lui laissant faire la FML en bouteille. Si vous voulez
donc
bien
la FML,
c'est la rétrogradation malolactique, oui, c'est-à-dire la transformation par des bactéries qui sont présentes dans le vin de l'acide malique en lactique, ce qui a pour finalité de développer un petit peu de carbonique, mais de transformer l'acide malique en lactique qui est moins acide. Donc le vin naturellement est plus tendre après cette opération, mais le fait de mettre le vin en bouteille une fois qu'il est fini sa fermentation alcoolique et puis lui faire faire sa malo en bouteille, c'était pas un champagne, mais c'était déjà un vin qui pouvait avoir la capacité selon les bouteilles à faire sortir un peu le bouchon.
Voilà.
Et alors donc il était très pétillant, il avait un petit côté, alors là on sentait vraiment les lits parce que il avait vraiment tout son bagage de lits, une partie de celui de la FA qui s'était pas totalement déposé, plus celui de la FML. Et alors c'est vrai que ça a des caractéristiques au nez qui sont vraiment typiques. Ça c'est vraiment un vin dont on sent le côté lits. Mais c'était très très léger et joyeux, très friand l'été frais. C'était très marrant avec il y a un côté carbonique beaucoup plus développé que dans les vins qu'on a aujourd'hui. Et c'était on va dire désaltérant quasiment. Et c'était sympa.
Voilà, ben de tout ceci, je déduis que nous n'avons pas le temps de faire le tour du sujet, que le Chasselas est un cépage tout à fait fascinant, et eh bien, je pense que vous pourrez, dans le canton de Genève, trouver une variété de Chasselas tout à fait extraordinaire, selon les options des vignerons, selon qu'ils soient tirés sur lit, filtrés ou non filtrés, selon les clones, etc. Vous voyez, ici-bas, rien n'est simple. J'ai le plaisir de vous saluer, de vous dire à bientôt, et je remercie surtout Bertrand Favre qui s'est joint à nous pour nous documenter. Merci.
Merci à vous.
Radio Cité Genève sur internet
www.radiocité.ch